Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez trouver les derniers opus sur la page Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine du cadmium, qui est un peu trop présent dans nos milieux de vie, et notamment à cause des engrais phosphatés, des engrais qui permettent des rendements importants de produits alimentaires, dont la valeur nutritive est dégradée par rapport à ce qui se produisait auparavant, avant que les pesticides et les engrais chimiques ne soient partout. Tiens, un petit message à propos de ceux qui nous informent. Aux journaleux qui ne cherchent pas la rigueur pour informer le Pékin moyen, arrêtez de parler d'agriculture intensive quand vous voulez parler de l'agriculture conventionnelle, celle qui utilise des engrais et pesticides venant de l'industrie chimique. On peut faire de l'agriculture intensive en bio. Eh ouais, l'intensivité étant liée au rendement et du rendement, on peut en faire en bio. Merci d'avance. À propos du cadmium, ça fait une alerte de plus, ce coup-ci lancée par des médecins libéraux. Une de plus, oui, parce que des alertes, on en a, on veut, tu en voilà, notamment à propos des pesticides et des engrais, à propos de tout ce que l'industrie chimique nous met dans nos milieux de vie. On en reparle dans pas très longtemps. Messieurs, dames, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Et si vous vous contentez en sachant de dire « Ah ben c'est comme ça, hein ?» Eh ben ça confine à la complicité, une complicité par passivité, tant vous seriez occupé par la préparation de vos travaux d'été dans votre propriété, et également occupé par la semaine de migration vers la mer ou la montagne cette année, ma chérie. Tristesse. On aurait pu vous parler de l'A69, encore. Oui, ce symbole de la lutte contre les grands projets inutiles, sauf bien sûr pour les adorateurs du pognon et de la croissance du PIB. Un texte a été voté par le Sénat et qui passait devant l'Assemblée nationale le lundi 2 juin. Il a été rejeté par tous les députés présents. Une belle unanimité qui cache en fait l'idée de la droite et de l'extrême droite, tous libéraux en économie, de favoriser le passage du texte en commission mixte paritaire. Un texte qui avait pour but de favoriser de manière rétroactive, le fait que l'A69 est autorisée. Ah bah c'est cool. Maintenant c'est par la loi. Alors normalement ça devrait passer par des dossiers traités par des commissions. Non, bah là c'est la loi. Tiens, on a envie de cette autoroute, bah on la fait passer par la loi. Elle devient tout à coup absolument nécessaire à toute l'humanité. Enfin surtout l'humanité qui adore le pognon et la croissance du PIB. Donc là, de fait, si la droite et l'extrême droite, les libéraux en économie, ont voté contre le texte, c'est pour le faire passer en commission mixte paritaire, une commission de 7 députés et 7 sénateurs qui doivent se mettre d'accord sur un texte commun pour ensuite le faire voter sans aucune modification, donc pas d'amendement, il n'y aura pas d'amendement possible, par les deux chambres. Rappelons que cette loi permettrait de valider rétroactivement des autorisations environnementales pour que continue légalement la construction de l'autoroute A69, surnommée l'autoroute Fabre, tant les conflits d'intérêts sont importants. Eh bien, sans transition, on aurait pu vous parler d'une proposition de loi des Verts, qui ont une niche parlementaire ce jeudi 12 juin au Sénat. Les écolos, bon, pas assez anticapitalistes à mon goût pour vraiment porter l'écologie politique, proposent de taxer les 2000 foyers fiscaux les plus riches à hauteur de 2% de leur patrimoine, pour dégager entre 15 et 25 milliards. Bon, bien sûr, la droite, l'extrême droite, l'extrême droite maintenant, c'est un petit peu horizon, hein. Oui, il trouve, monsieur Édouard Philippe, que madame Meloni fait très très bien son travail en Italie. Ah, il n'y a plus de soucis. Non, droite, extrême droite, associé, oui, bien sûr. De toute façon, on est libéraux en économie, à tous. Donc, on n'a aucun problème à bosser ensemble. Ah oui, d'accord, par rapport au racisme, tout ça. Un épiphénomène, sans doute. Eh bien, ça devrait quand même permettre de dégager entre 15 et 25 milliards de revenus pour l'État, c'est-à-dire pour nous tous. Le problème, c'est que le Sénat est à majorité d'extrême droite et de droite, les Républicains étant très nombreux. Et ayant bien montré leur priorité par l'élection du ravi de Vendée qui triche à Interville, à la tête du parti. Donc il existe des moyens de pression populaire pour quand même leur dire « Ouais, d'accord, mais c'est bien ce que tu fais, ce que tu dis. Mais maintenant, ce serait bien aussi que tu fasses en sorte de montrer qu'il y a un intérêt général. Et peut-être que la redistribution de l'argent des plus riches qui, bien sûr, ont fait en sorte de voler ça à quelqu'un, par le fait d'exploiter la population. » Eh bien, ce serait bien qu'il le redistribue, cet argent. Donc, dans le cadre très contraint de la démocratie représentative, on peut trouver des moyens de pression populaire, des manifs et compagnie, et on peut chercher aussi sur le site du mouvement citoyenniste Victoire au pluriel populaire au pluriel.fr, victoirepopulaire.fr, par exemple. Bah, on aura fait ce qu'on a pu. Hein. On pouvait également vous parler de commerce international. Le syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels portuaires du Golfe de Fos a été alerté par plusieurs réseaux que 19 palettes de maillons d'Eurolink, une entreprise marseillaise, devaient être embarquées par container ce jeudi après-midi via le port de Marseille-Fos en direction du port d'Haïfa en Israël. Ces maillons d'Eurolink sont des pièces détachées pour fusils mitrailleurs servant à l'armée israélienne pour continuer le massacre de la population palestinienne. Nous le répétons encore et encore. Ah mais non, mais c'est pas moi qui parle là, hein. C'est le communiqué du syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels de la manutention portuaire du Golfe de Fos. Ah bah du coup, il le répète. Ils sont pour la paix. Ils n'ont pas envie de participer au conflit israélien. Donc, ils ont refusé de mettre les palettes sur le bateau. Que sont devenues ces palettes? Elles ont peut-être été mises sur un autre bateau. Ou alors, il y avait des dockers, peut-être, je ne sais pas, moi, de l'UNSA. Ah non, je suis méchant avec l'UNSA. Bah, des dockers de chez Horizon, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ah ben, bah, des dockers de chez Renaissance. Ah non, des dockers de Info 24, là, l'émission, enfin, la chaîne de... Enfin bon, il y a peut-être des gens qui ont mis ça sur des camions. Et qui les ont emmenés, parce que ça va se retrouver sans doute du côté d'Haïfa, pour alimenter des fusils mitrailleurs qui permettront de ramener la paix à Gaza. On est en plein confusionnisme. Il n'empêche que certains ont des positions claires. Alors ben merci aux dockers de la CGT d'avoir une position assez claire. Rien à ajouter. Ah si, quand même, une action peut-être à élargir à toutes les armes et leurs pièces détachées, et peu importe leur destination. On aurait pu vous parler de l'encensement de la réussite individuelle dans une société par essence composée de collectifs. Eh, sinon, ça ne s'appellerait pas une société. À propos d'une joueuse de tennis devenue icône nationale, dont la vie va changer avec les quelques 700 000 euros gagnés lors du tournoi de Roland-Garros selon France Info. Le calcul est vite fait, c'est 35 ans de salaire d'une personne au SMIC. Mais au-delà des chiffres délirants qui servent de salaire aux sportifs professionnels, c'est plutôt le coût qui m'a intéressé, et même plutôt les coûts. D'abord pour elle, combien d'années d'entraînement, de mise entre parenthèses de sa jeunesse pour atteindre le bon niveau athlétique? Une blessure déjà, les ligaments du genou droit, à 21 ans. Quelle pression mise sur son corps pour atteindre le bon niveau? Quelle pression psychologique également augmentée? De fait, quand le monde médiatique, notre monde du spectacle, toujours en recherche de phénomènes, vous place comme porte-étendard d'une nation tout entière. Quel coût éthique pour cette activité, le tennis professionnel qui fait la publicité, par exemple, sur les cours de Roland-Garros d'une banque, la BNP Paribas, dont les activités dans les paradis fiscaux ne faiblissent pas, dont les investissements dans les énergies fossiles ne faiblissent pas, dont le but assumé est de générer du pognon avec du pognon. Quel coût écologique, enfin, les tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire les plus connus, se déroulent aux quatre coins du monde, ou presque. En France, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis. Les joueurs et joueuses des équipes qui les accompagnent, les grands de ce monde qui doivent être vus à ces événements, se déplacent plutôt en avion avec du matériel. Alors, j'ai pas trouvé de réponse claire à la question quelle quantité de carburant est nécessaire pour transporter un kilo de quoi que ce soit en avion, ni pour savoir quelle est la quantité de CO2 émise par kilomètre parcouru. Mais dans tous les cas, c'est trop. Tout ça pour la réussite personnelle d'une jeune femme. Mais ça marche aussi pour les vieux hommes, et tous les genres et tous les âges. À partir du moment où c'est une réussite individuelle, il y a peut-être quelque chose qu'on ne devrait pas porter au nu. Tout ça pour nous montrer une réussite portée au nu et montrée en exemple au Pékin moyen, qui n'aura pas réussi donc lui. Nous avons surtout besoin de réussite collective plutôt que de construction médiatique. Je la refais. Nous avons surtout besoin de réussite collective plutôt que de construction médiatique de la réussite individuelle. Par avance, merci. Mais finalement, on a préféré continuer à vous parler de santé publique. Mais c'est la santé de tout le monde, ça? N'importe quoi. La dernière fois, nous avons entendu pour la première fois Nathalie Bonvalot, qui est intervenue en avril dernier lors d'une soirée de discussion sur les perturbateurs endocriniens à la salle des concerts à Le Mans. Mais qui est Nathalie Bonvalot? Eh bien, elle nous l'a dit la dernière fois, elle est toxicologue. La dernière fois, elle nous avait d'ailleurs entretenu de la santé publique et des difficultés à établir des indicateurs toxicologiques, notamment pour les produits chimiques combinés entre eux, avec leur effet cocktail. Mais au fait, ces produits quels sont leurs effets tout court? Par exemple, les perturbateurs endocriniens. Bon, bah déjà, c'est quoi une glande endocrine? Heureusement, Nathalie Bonvalot, toxicologue de son état, nous en dit plus.
On a dans notre environnement, dans nos milieux de vie, des perturbateurs endocriniens qui agissent sur les glandes endocrines et qui perturbent violemment le développement d'un certain nombre de personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une glande endocrine ?
Oui, alors les glandes endocrines, ce sont les petits organes dans notre corps qui fabriquent les hormones. Les hormones, ce sont des messagers chimiques qui sont diffusés par notre circulation sanguine. Donc c'est comme si on avait des petits facteurs avec des petits camions de poste dans notre sang qui se déplacent d'un organe à un autre. Et donc ce sont des messagers qui permettent de délivrer des informations d'un organe à un autre. Il y a les glandes sexuelles, généralement les gens connaissent bien, donc qui sont les testicules, les ovaires. Mais on a aussi des glandes qui se trouvent sur les reins, qui s'appellent les glandes surrénales. Ces glandes-là sont responsables, par exemple, on les connaît aussi, de la sécrétion de l'adrénaline, du cortisol en cas de stress. Puis après, on a toutes les glandes qui sont dans le cerveau, qui servent à équilibrer tout ça et qui produisent des hormones de manière pulsatile toute la journée. Il y a vraiment des cycles de 24 heures, de quelques jours. Et donc, c'est ces glandes du cerveau qui donnent le contrôle sur tout le corps. Et puis après, on a aussi la thyroïde, qui est peut-être connue de certaines personnes, donc qui se trouve dans le cou. La glande thyroïdienne, elle est responsable plutôt de tout ce qui est préservation de la chaleur dans le corps, enfin tout ce qui est un peu l'activité de notre organisme de base. Et donc quand c'est déréglé, on peut avoir des problèmes de trop chaud, trop froid, des problèmes de tension, des problèmes un peu classiques de base. Et donc effectivement, quand on parle de perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules chimiques qui ont la capacité d'altérer ces circuits hormonaux parce que soit ils ressemblent eux-mêmes à une hormone et donc ils vont se mettre à la place, soit ils vont embêter la circulation de l'hormone dans le corps et bah, du coup, l'hormone ne va pas avoir l'effet escompté.
Ah ben super, donc les perturbateurs endocriniens peuvent aussi ainsi squatter les récepteurs cellulaires qui devraient normalement attirer des hormones produites par notre corps pour envoyer un message. Elles peuvent aussi mimer l'action des hormones, alors que la glande endocrine n'en a pas produite car elle n'avait pas à en produire. Des recherches en cours cherchent, c'est leur fonction, à montrer quels récepteurs sont touchés par quelles molécules chimiques présentes dans nos milieux de vie. Seulement c'est pas si facile étant donné les interactions innombrables qui ont lieu dans un organisme vivant. Nous voilà bien embêtés. Seulement des tests sur des animaux montrent que l'exposition à des molécules diminue par exemple la production de certaines hormones. C'est bien que, bah, quelque part, les hormones squattent. Comme si le corps n'avait pas besoin d'en faire, puisque l'eau qui est bue, l'air qui est respiré, la nourriture qui est ingurgitée contient des molécules qui squattent les récepteurs. Les perturbateurs endocriniens n'ont pas seulement ces modes d'action pour nous bousiller la santé. Non, on écoute à nouveau Nathalie Bonvalot, toxicologue.
Ils ne donnent pas un effet particulier. En fait, ça dépend où ils vont agir. S'ils agissent sur le testicule, ça ne va pas avoir le même effet que s'ils agissent sur la thyroïde, par exemple. Et donc, il y a plein d'effets différents qui pourraient être, en tout cas, recensés. Et donc, on travaille beaucoup en ce moment sur ces molécules-là. D'autant plus que les hormones, donc les glandes endocrines qui produisent les hormones, elles produisent les hormones à des toutes petites doses. Par rapport à nos autres composants dans l'organisme, que ce soit par exemple le cholestérol, les acides aminés, ça c'est des milligrammes par litre dans notre sang, on en a beaucoup. Alors que les hormones c'est des toutes petites quantités, souvent c'est du picogramme, je ne sais pas si... Donc c'est vraiment des toutes petites quantités de molécules. Et du coup on se dit que ces perturbateurs endocriniens, s'ils ont un peu la même capacité A que les hormones, ils risquent aussi d'agir à des plus petites doses. Donc on est encore plus embêtés.
Il apparaît que les perturbateurs endocriniens génèrent des troubles du développement, de la fertilité, du métabolisme, du comportement, donc du diabète, de l'obésité, de l'asthme, des allergies, des troubles du comportement, des cancers, etc. Là encore, une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas de s'empêcher de les produire, puisqu'il y a un choix là à faire, c'est soit la santé de la population, soit la santé de certaines entreprises finalement.
Alors, c'est vrai que vous citez tous les effets, là, effectivement, en fonction des cibles de ces molécules, on a des possibilités d'augmenter les risques de certains cancers, de certains troubles de la fertilité, de certains troubles du développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça maintenant. Il faut qu'on agisse. Alors, il y a des réglementations qui ont été prises depuis assez peu de temps, finalement, mais en fait, c'est assez compliqué comme sujet parce qu'on ne sait pas bien les identifier. En fait, quand on fait de la réglementation, il faut qu'on ait des essais toxicologique qui soit bien standardisé pour que tout le monde puisse reproduire, pour que quand on fait l'étude, on la fasse à chaque fois de la même manière et pour que les résultats soient reproductibles. Et pour ces molécules qui ont des effets hormonaux, jusqu'à il y a 15 ans, on n'avait pas d'essais standardisés. Donc là, il y a la recherche qui a avancé. Et puis après, quand la recherche trouve des essais, il faut faire des essais interlaboratoires. Ça coûte énormément d'argent aussi. Et donc, ça ne va pas très vite. Donc aujourd'hui, encore même, à l'échelle de l'Europe, on manque de tests standardisés pour identifier ces molécules. Mais on a quand même mis en place des actions réglementaires pour les considérer comme très préoccupantes. Et donc, même si on peine à toutes les identifier, celles qui ont été identifiées se passent à la moulinette et sont considérées comme très préoccupantes. Ça veut dire qu'on ne peut pas les retrouver dans certains produits. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu, entre guillemets, sur la sellette. C'est-à-dire que si on trouve une alternative, on va s'en passer. Et donc ça, ce sont des choses qui sont faites à l'échelle de la réglementation. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. C'est-à-dire que on en parle en recherche depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, ça fait presque 30 ans. La Commission européenne a commencé à travailler sur ces questions réglementaires en 2010 à peu près. Il y a des premières identifications qui ont été faites en 2017. Et après, ça a été plus vite, puisqu'en 2019, on avait 21 molécules qui étaient recensées à l'échelle réglementaire comme très préoccupantes, donc perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on en a à peu près 120. Donc, ça va peut-être pas assez vite, mais on voit bien qu'il y a une augmentation exponentielle du nombre de molécules qu'on identifie telles quelles.
Ah bah ça y est, on est au courant. Donc, pour information, le picogramme, c'est 10 puissance moins 12 grammes, soit un millionième de milliardième de grammes. Ça fait pas beaucoup, c'est pas bien lourd. En termes de recherche, on retrouve les difficultés liées au coût des recherches. Au niveau de l'Union européenne, des listes sont produites par l'ECHA notamment. Alors l'ECHA, non, ça n'a aucun rapport avec les félins. C'est l'Agence européenne des produits chimiques. Et puis en France, un arrêté de 2023 liste officiellement les perturbateurs endocriniens avérés. Le tout paru au journal officiel. Mais ils continuent à être utilisés pour leurs vertus industrielles. Par exemple, le nonylphénol ramifié, inscrit sur la liste, on continue à le trouver dans des pesticides en tant que tensioactif également. Qu'on appelle aussi agents de surface. Ce sont des molécules qui favorisent l'étalement d'un liquide sur une surface, un sol, des dents, une peau. Donc on les retrouve dans les détergents, dans les cosmétiques. Le nonylphénol sert aussi dans certaines peintures pour la production de plastique également. On connaît sa toxicité puisque les bidons qui le contiennent arrivent avec de jolis losanges orange sur l'étiquette qui nous indique que le produit est nocif en cas d'ingestion, provoque de graves brûlures de la peau, de graves lésions des yeux, susceptibles de nuire à la fertilité, susceptible de nuire au fœtus, très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eh ouais, tout ça est connu puisque le nonylphénol a une fiche INRS, donc produite par l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, une association loi 1901 financée par la Sécu pour connaître les risques et donc les prévenir. Prévenir de la dangerosité du travail, on pourra en reparler de la dangerosité du travail. Toute cette connaissance n'empêche pas de continuer, tiens c'est la quatrième fois que je l'utilise ce verbe, à produire, utiliser, disséminer ces poisons dans nos milieux de vie. Alors on cherche.
Donc nous ce qu'on essaye de faire à notre niveau en recherche, en lien avec les agences réglementaires, c'est d'identifier les structures qui sont des alertes pour ces molécules qui auraient tendance à avoir un impact sur le système hormonal, pour éviter justement qu'elles soient mises sur le marché. Mais voilà, ça, c'est des choses qui prennent aussi du temps. Donc oui, on a tout intérêt à essayer de diminuer finalement l'usage de ces molécules-là. C'est en fait les structures chimiques. C'est parce que souvent, une molécule, ça a une configuration dans l'espace et une structure chimique. Et c'est cette structure qui est responsable de la toxicité de la molécule. Et donc, quand les structures se ressemblent, on pense que la toxicité va se ressembler. Je vais donner un exemple qui parle peut-être sans doute bien. C'est l'exemple du bisphénol A. Donc le bisphénol, on en a beaucoup entendu parler. Ça fait quelques années en France. Il a été interdit il y a longtemps dans les biberons. Il a été interdit il y a assez longtemps aussi dans les matériaux en contact avec les aliments, dans les tickets de caisse aussi. Et ça, on l'a vu, c'était écrit bisphénol free pour dire sans bisphénol. Et donc le bisphénol, il a une structure chimique bien particulière. Et clairement, quand on a voulu le remplacer, on l'a remplacé par une autre structure qui ressemblait beaucoup, qui s'appelle aussi un bisphénol, mais qui n'est pas le bisphénol A, parce qu'il y a un petit atome en plus d'un côté, il y a un petit atome en moins de l'autre. Et donc ça reste une structure chimique très identique. Et d'ailleurs, maintenant, on essaye de les réglementer en groupe pour pouvoir les interdire ensemble et pas juste un. Parce qu'on voit bien que la toxicité est un peu similaire d'une structure chimique à une autre. Donc nous, on essaye, grâce à ces typologies de structures chimiques, de faire des alertes. Et quand on voit ces structures chimiques-là, on se dit « attention, là, il y a risque d'effets de type, je sais pas moi, cancer ou de type diabète, comme vous disiez tout à l'heure ».
Oui, c'est gay. Le bisphénol A est un composé organique aromatique qui fait partie de la famille des bisphénols, qui sont souvent des dérivés du diphényl-méthane. Quand les deux phénols, oui, bien sûr, parce que bisphénol, Donc, quand les deux phénols sont liés par un pont méthyle. Mais du coup, le pont est parfois autre, comme pour le bisphénol P et le bisphénol S. Vous êtes perdu ? Comme moi. C'est pourquoi on ne s'intéresse pas trop à la chimie, comme à plein d'autres domaines, qui ont des conséquences directes sur nos vies, parce que c'est écrit dans une langue étrangère. Surtout quand on n'a pas vraiment été attentif durant les cours de sciences. Le bisphénol A sert notamment à produire une gamme de plastique qui s'appelle les polycarbonates, et à lutter contre l'oxydation du plastique, donc lui donner une durée de vie plus longue. Il s'est fait attraper, le bisphénol A, parce qu'il est toxique pour la reproduction, cancérogène. Alors les autorités ont pris le problème à bras-le-corps, ils l'ont interdit. Dans les produits pour bébés, par exemple. Le bon lait chaud qui passe par les petits trous de la tétine et arrache des molécules de bisphénol A pour les faire migrer dans le bout de chou qui nous regarde plein de confiance durant le nourrissage. Ça c'est fini. Enfin, c'est interdit. Depuis 2010, il a été remplacé par le bisphénol S. Merde, des études montrent que le bisphénol S serait aussi un perturbateur endocrinien dangereux pour les humains, notamment une recherche publiée en 2019 par la revue Environmental Health Perspectives. Tout ça pour appuyer l'idée d'interdire les groupes de molécules quand les structures sont très proches, plutôt que de les interdire une par une. Donc les chercheurs cherchent, mais ils ne sont pas tout seuls dans l'équation. Il existe aussi des personnes dont l'intérêt bien compris est de nous faire penser le contraire du réel.
Est-ce qu'au niveau réglementaire, l'action des lobbies au sein de l'Union européenne peut avoir également eu un effet sur le fait que ça ne vaille pas si vite que ça ?
Il y a forcément un effet, puisque à l'échelle de la Commission européenne, les discussions se font avec l'ensemble des parties prenantes et se font sur la base toujours de compromis. C'est les stratégies politiques, donc on sait à peu près comment ça fonctionne. Je ne suis jamais allée défendre un dossier récemment à la Commission européenne, mais effectivement, quand il y a des lobbies, ils sont présents, ils sont souvent bien présents parce qu'ils peuvent avoir des intentions à défendre. Et quand il y a des intentions économiques qui sont défendues, elles peuvent parfois avoir plus de poids que des intentions santé environnementale, pour la simple et bonne raison qu'on raisonne souvent à plus court terme sur les périodes. On se dit, si on a un problème économique, on va regarder sur la durée du mandat électoral ou ce genre de choses. Et donc souvent, ça peut avoir en tout cas un poids. Le compromis, en fait, il est pris dans un sens, puis après, on montre qu'il y a une étude scientifique qui va dans l'autre sens, on va revenir un peu sur notre décision. Et il y a souvent une balance qui est faite et des fois, on a du mal à décider, justement. C'est pareil, pourquoi on a du mal à décider ? C'est parce que quand il y a une problématique économique, on cherche des preuves. Alors, on a des preuves de toxicité, mais par contre, c'est difficile de montrer une causalité dans les maladies actuelles. Donc, on ne peut pas dire toujours c'est telle molécule qui est responsable de toutes ces maladies-là. Et donc, forcément, les preuves, c'est des preuves juste de toxicité. Et donc, on dit, mais les preuves, il en faudrait plus. Et donc, des fois, on a tendance à retarder la décision en attendant d'avoir plus d'éléments, alors qu'il faudrait prendre la décision plus tôt. Mais comme il y a l'aspect économique qui entre en jeu, on retarde un peu. Donc oui, ça joue forcément. Il y a des vrais compromis qui se font à cette échelle-là.
En sachant qu'il existe même des officines qui sont chargées de la fabrique du doute, et de réduire ses preuves à presque rien en faisant d'autres recherches, ce qui permet souvent de dire « oui, mais les essais sur tel animal, etc. ne sont pas pertinents chez l'homme ».
Oui, alors ça c'était très très connu pour tout ce qui est tabac, là, on a beaucoup parlé de ça. Moi, je connais l'amiante aussi. Alors c'est vrai que moi je connais un petit peu moins, mais il se trouve qu'il y a des questions éthiques qui reviennent plus sur la question des responsabilités, des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt. Le fait est qu'on fait plus attention à ça aujourd'hui, donc dans ces institutions-là, il y a moins la possibilité justement de faire intervenir des études, entre guillemets, qui fausses ou qui seraient mal interprétées.
Plus difficile, mais des documentaires comme La Fabrique de l'Ignorance, qui date de 2020, nous montrent que c'est toujours possible maintenant en instrumentalisant les réseaux sociaux. Principale source d'information des moins de 40 ans, ai-je entendu sur une radio d'État d'information en continu. Mais aussi en utilisant des figures médiatiques de confiance, qui parfois, de bonne foi, relaient des informations qui servent surtout à instiller du doute. Et bien sûr, par l'intérêt personnel, qui peut faire d'un élu un soutien indéfectible d'un produit, d'une activité économique présente sur le territoire, où des citoyens lui ont donné mandat. Tiens, comme des parlementaires tarnais qui rédigeraient une loi spéciale à propos de l'autoroute A69. J'allais oublier la corruption pure et simple qui participe du même principe, sauf que le produit ou l'activité défendue dépend de celui qui paye. De forts soupçons touchent actuellement la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui aurait perçu près de 300 000 euros de GDF Suez, 17 ans de rémunération d'une personne au salaire minimum en France, pour dire tout le bien qu'elle pensait du SMIC au Parlement européen au début des années 2010. La fabrique du doute permet d'obliger à continuer les études scientifiques, à les multiplier. C'est le contraire du principe de précaution. Et c'est surtout un moyen de gagner du temps pour les industriels du secteur et donc de continuer à faire du profit. But inaltérable des libéraux qui nous gouvernent en association avec ceux qui nous font acheter tellement de produits dont nous n'aurions même pas l'idée d'avoir besoin dans une vie ayant un peu plus de sens. En janvier 2025, les journalistes d'une trentaine de médias du monde entier ont produit les premiers articles liés aux polluants éternels, les PFAS, qui sont sur la sellette à l'Union européenne. Depuis, les lobbies s'activent et les boîtes de com' phosphore pour faire passer ces produits éternellement toxiques pour autre chose. Le collectif de journalistes qui enquêtent, oui, heureusement, il en reste. Il n'y a pas que du plateau avec du « Hey, tu peux me dire des conneries pour... ?» 7 minutes et puis moi, ben, je réponds. Et puis après, ben, ton collègue en dira pour 7 minutes et voilà comment on a fait un petit quart d'heure de plateau. Donc, le collectif de journalistes qui enquêtent s'appelle le Forever Lobbying Project. Après, ce tableau pas très engageant de la place des perturbateurs endocriniens et de ceux qui les promeuvent dans nos milieux de vie, que faire, comme disait l'autre? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. On avait envie de vous dire plein de choses parce qu'il se passe plein de choses la semaine prochaine. On vous enjoint à aller voir sarthe.demosphère.net, sarthe.demosphère.net, et notamment le vendredi 13, alors que les abrutis motorisés vont faire des tours en centre-ville et nous montrer à quel point ils sont de bons supports publicitaires. Eh bien, il y a des gens qui proposent une parade à roulettes. Ouais, une parade à roulettes. Eh bien, on vous conseille d'y venir. C'est à 19h30, place des Comtes du Maine. Vous venez avec un truc sans moteur. Les pieds sont soi-disant accessibles. Bon, ben en attendant de se retrouver incessamment sous peu, moi je vous dis tout simplement, allez, au revoir.